Ce quatrième cours sur Ludwig Mies van der Rohe le voit aux prises avec une institution majeure de l'Allemagne de Weimar dans le domaine de l'art, de l'architecture, de l'industrie, le Bauhaus, dont il prend la direction en 1930 et le voit aussi à partir de 1933 et jusqu'à son émigration définitive aux États-Unis en 1938, le voit finalement perdre la bataille dans laquelle il s'est lancé pour exercer son activité, pour continuer à pratiquer l'architecture dans le Troisième Reich commençant. Mies, au début des années 30, le voici en 1932, est un homme connu, reconnu, tant en Allemagne que dans le reste de l'Europe et jusqu'en Amérique du Nord. Il est invité, par exemple, en 1933, parmi les 12 architectes significatifs du moment, à réaliser une petite exposition personnelle à la Triennale de Milan, à côté de Le Corbusier, Frank Lloyd Wright et quelques autres. Donc, il est reconnu internationalement. Dans le même temps, sa pratique marque le pas. À part la maison Tugendhat qui est achevée en 1930, après la maison Tugendhat et la maison de la Bauausstellung de 1931 dont j'ai parlé, ses commandes se réduisent presque à néant et ses tentatives pour remporter des concours ou en tout cas pour étudier les projets pour les derniers clients fidèles qui s'égrèneront jusqu'en 1935-36 seront dans l'ensemble sans effet. Alors, Mies va pendant cette période des premières années 30, disons entre 1930 et pratiquement 35-36, aura une activité qui se résume à l'enseignement au sein du Bauhaus de Dessau puis de Berlin et par ailleurs au suivi de sa production de meubles. C'est avec les droits d'auteur sur les meubles qu'il va pouvoir vivre dans cette période. Ces meubles qui seront produits en série et qui correspondent, ainsi qu'on l'a déjà vu, à trois gammes successives. Ces meubles en acier peuvent être situés dans un champ plus vaste de recherche. Ce champ, il est inauguré au Bauhaus de Weimar par les recherches de Marcel Breuer, tout d'abord élève, puis ensuite enseignant. On voit ici à gauche le film qui est publié à l'initiative avec les matériaux de Breuer pour souligner l'évolution du mobilier au Bauhaus entre ces sièges pittoresques du début des années 20, largement inspirés par l'art africain, puis les sièges constructivistes en bois de 1924, et enfin les sièges en tube, dont le célèbre fauteuil Vassili, ainsi nommé en l'honneur de Kandinsky, que l'on voit en bas de cette pellicule imprimée. Et évidemment la prospective qui conduirait à des sièges immatériels, une anticipation sur les mobiliers gonflables des années 1960. Quant à Mies lui-même, il est inséré dans ce champ de recherche dans lequel plusieurs architectes travaillent à la fois sur l'idée de la chaise suspendue, de la chaise élastique en porte-à-faux. C'est le cas de Marcel Breuer. C'est le cas aussi du néerlandais Mark Stam, avec qui Mies est assez lié, et enfin de Mies lui-même, avec ses sièges qu'il imagine tout d'abord, dont il produit une première version à l'occasion de la cité du Weissenhof. Ce sont ces meubles qui équipent son immeuble de logement au Weissenhof. On en voit ici deux versions. Ces sièges seront d'emblée déclinés selon qu'ils ont des accoudoirs ou non, selon les revêtements, mais il les étudie avec grand soin et dépose un brevet dès 1927. Ici, je voudrais souligner cette importance des brevets pour les architectes de la génération de Mies. C'est le cas pour lui, c'est le cas aussi pour Le Corbusier qui ne cesse d'en déposer. L'idée des brevets le thème des brevets, c'est l'idée d'avoir accès à un marché plus vaste que celui des meubles de luxe et de pouvoir en profiter économiquement. MIS sera assez, au fond, assez efficace en la matière. Voici donc la chaise de Stuttgart, telle qu'elle est, le siège de Stuttgart, tel qu'il est décrit dans les brevets. Mais MIS travaille aussi, on l'a vu, à l'occasion du pavillon de Barcelone, à une deuxième gamme, c'est la fameuse chauffeuse de Barcelone, qui est fait appel non pas à des tubes, mais à des fers plats, comme vous le voyez sur ces dessins de brevets, des fers plats qui sont imbriqués et soudés, et qui trouvent leur origine de façon tout à fait symptomatique dans des meubles du 19e siècle. Le dessin des pieds peut faire penser à ce fauteuil de Schinkel de 1820, ou bien, et son inclinaison, son allure générale à cette chaise pliante française du début du 19e siècle. Donc, MIS a une bonne connaissance de l'histoire du mobilier qui informe ses projets. La deuxième gamme, qui est la gamme de Barcelone, très luxueuse, et la troisième, qui est celle de Brno, où avec une nouvelle chaise, un nouveau siège tubulaire à gauche, dérivé de celui de Stuttgart, on voit bien ici les filiations se mettre en place, et un fauteuil qui est une sorte d'hybride entre les sièges tubulaires et l'assise en fer plat et avec ses grands coussins plats de Barcelone. Cette production de MIS est diffusée par Tonet, qui depuis le 19e siècle produisait en Europe centrale, essentiellement en Bohême, c'est-à-dire désormais dans les années 30 en Tchécoslovaquie, Tonet qui produisait des sièges en bois tourné, continue à produire des sièges aux formes curvilignes, mais cette fois-ci, ce sont, si je puis dire, des sièges tubistes, des sièges en tube d'acier chromé. La gamme que produit MIS est considérable, que dessine MIS est considérable. On voit ici, entre ce que lui a dessiné et celui que Lili Reich a dessiné, l'ensemble des formes diffusées au début des années 30, formes en tube, nickelées ou chromées, selon les cas. Nous voyons ici, la ménagerie, l'ensemble des meubles que MIS réalise dans cette période et qui, je l'ai déjà dit, assureront sa prospérité, peut-être du moins sa survie quotidienne. Alors, MIS rencontre en 1930 le Bauhaus fondé par Walter Gropius à Weimar en 1919, dans l'école d'art construite au début du siècle par Henri van de Velde pour le grand-duc de Saxe. C'est cette école d'art qui est le conteneur, le lieu où les expériences de Gropius se déploient. Donc, quelques mots sur les expériences du premier Bauhaus qui opère à Weimar de 1919, date de sa fondation, à 1925. Le diagramme des cours du Bauhaus est tout à fait connu. Il passe par une Vorlehre, un cours préliminaire dans lequel les étudiants, les élèves de toutes les disciplines sont invités à apprendre les fondamentaux des formes et des textures, puis au travers de l'expérience directe des matériaux, de l'étude de la nature, du travail d'atelier, ils accèdent à des départements spécialisés, pierre, bois, métal, tissu, son, verre, couleur, et finalement accèdent à ce qui est l'objectif ultime de l'école, en tout cas l'objectif avoué, qui est la formation au travers de l'expérience du chantier de constructeur, d'architecte ou d'ingénieur. En fait, le Bauhaus formera très peu d'architectes pendant la période de la direction de Gropius à Weimar ou à Dessau. En revanche, l'enseignement y est extrêmement fécond, assuré par des figures extrêmement différentes parmi les artistes. Johannes Itten, artiste à tendance mystique, qui enseigne sa propre théorie des couleurs tout au début des années 20. Les deux artistes les plus, je dirais, les plus féconds, les plus productifs dans le cadre du Bauhaus, et qui élaborent un enseignement explicite de la forme et de la couleur, sont Kandinsky et Paul Klee, qui restent actifs du début des années 20 à la fermeture du Bauhaus de Berlin en 1933. Avec leur rapport avec les architectes ne seront pas toujours harmonieux. Mise, pour ce qui le concerne, sera toujours passionné par la peinture de Klee. Comme on le verra, il collectionnera les tableaux du peintre suisse. Très rapidement, le Bauhaus s'ouvre à de plus jeunes artistes, comme le hongrois László Moholy-Nagy, qui, à partir de 20, y enseigne toute une gamme, toute une série de disciplines, allant de la peinture à la photographie. Et rapidement aussi, au sein du Bauhaus, émerge une nouvelle génération, celle des élèves, ici Günther Stadler-Stölzel et ses tapis. On la voit passer de l'étude élémentaire des formes dans le cours préliminaire au travail sur les tapis et les textiles. Elle deviendra enseignante au Bauhaus de Weimar. En effet, c'est au Bauhaus de Dessau. En effet, c'est à Dessau, dans l'état de Saxe-Anhalt, que le Bauhaus se réinstalle après avoir été expulsé de Weimar par la droite locale. Il faut savoir que le Bauhaus, le staatliches Bauhaus, est une institution publique qui est donc financée par le Land dans lequel elle est implantée. C'était la Thuringe dans le cas de Weimar, ce sera la Saxe-Anhalt dans le cas de Dessau. Gropius obtient les moyens lui permettant de réaliser ce bâtiment qui reste, dont il faut bien considérer qu'il reste un modèle presque totalement cristallin de la démarche fonctionnaliste, puisque chaque composante de l'édifice est modelée en quelque sorte autour de son usage. Le grand bâtiment vitré des ateliers, le bâtiment plus modestement ouvert des classes, celui avec les fenêtres en longueur éclairant les couloirs de l'administration, la galette de l'auditorium à un niveau, et enfin le bâtiment des logements étudiants, donc un bâtiment complètement modelé autour de ses fonctions, qui illustre une démarche vis-à-vis de laquelle Miss Sandero est hostile, comme on l'a vu à propos de ses commentaires sur Stuttgart. Les Meister de Weimar se retrouvent à Dessau. On les voit ici dans une célèbre photo sur le toit. C'est donc une équipe extraordinairement puissante d'artistes et d'architectes que regroupe Gropius, au sein de laquelle apparaissent déjà des élèves devenus enseignants. Je pense au cas de Marcel Breuer, par exemple, ou de Stölzel. Le Bauhaus est aussi actif sur le terrain, et je crois que c'est un modèle important pour ce qui est marginalement de Weimar et beaucoup plus de Dessau. Des édifices expérimentaux sont construits par les enseignants et les étudiants. C'est le cas de cette cité de Turten à Dessau, un ensemble construit à partir d'éléments de béton préfabriqués qui illustre la fascination du fondateur du Bauhaus, de Walter Gropius, pour le taylorisme et le fordisme. L'idée d'une construction en série sur le modèle de l'industrie automobile. C'est une idée qui n'obsède pas outre mesure Miss Van der Rohe, mais qui est très importante au Bauhaus. Alors, en 1928, Gropius quitte la direction du Bauhaus, dont hérite l'architecte suisse Hannes Meyer, le Balois Hannes Meyer, qui est un architecte très engagé dans la théorie et la pratique du fonctionnalisme, bien au-delà de Gropius, qui est dans le même temps un militant politique proche ou membre du Parti communiste allemand. Mies voit proposer cette direction en 1928, déjà, mais cela ne l'intéresse pas. Il est alors engagé dans des projets d'ampleur. Ce sera le pavillon de Barcelone et aussi la Villa Tugendhat. Meyer prend la direction et infléchit fortement l'orientation de l'école. Voici son plan d'étude, un peu trop complexe pour que je puisse le commenter. Mais ce qui est important, c'est que le cursus est réorganisé, structuré de manière beaucoup plus claire par Meyer, et surtout, c'est un cursus qui est orienté beaucoup dans une direction beaucoup plus professionnelle. Il s'agit de former enfin des architectes de manière complète. Alors, cela se traduit par l'accent mis sur la technique, par l'introduction de l'urbanisme avec Ludwig Hilbersheimer. C'est aussi le moment où le Bauhaus introduit, ou Meyer introduit, des conférences de sociologie et de psychologie. L'école est moins une école d'art qu'elle devient une école orientée vers les techniques du bâtiment et vers la construction. C'est une école, il est important de le noter, qui est aussi en partie, qui a des effectifs féminins substantiels, ce qui est encore rare dans les écoles d'architecture du monde entier. Alors, les projets que font les élèves de Meyer pendant les deux ou trois années que dure son mandat sont des projets différents des précédents. Ce sont des projets dans lesquels les élèves travaillent, par exemple, sur l'ensoleillement, le travail de Lang à gauche, travaillent sur les questions, sur des programmes qui sont des programmes réalistes et des programmes correspondant aux attentes de la République de Weimar. Ce sont des projets, des recherches sur des types d'assemblages, comme le projet de Tolziner le montre à gauche, ou des analyses très rigoureuses des relations spatiales et des conditions environnementales, d'éclairement, de ventilation, dans des projets d'habitation. Le Bauhaus de Meyer, c'est aussi l'introduction de l'urbanisme avec Ludwig Hilbersheimer, dont on sait qu'il est lié à Mies depuis le début des années 20, et ce sont aussi des chantiers expérimentaux que Meyer réalise avec ses élèves. Cet immeuble de logement pour étudiants extrêmement austère de Dessau, construit avec son équipe, et surtout le chef-d'œuvre de Meyer, qui est cette école des syndicats de Bernau, un bâtiment fonctionnaliste mais assez organique dans son déploiement sur le terrain, dans lequel, comme à Dessau, les composantes sont isolées, les salles de classe, les logements, le réfectoire, le gymnase, mais l'ensemble, on le voit, est articulé de manière beaucoup plus souple autour de ce terrain réaménagé et planté. Meyer doit quitter la direction du Bauhaus en 1930 pour des raisons complexes. Il a longtemps avancé l'idée que c'était exclusivement des raisons politiques, puisqu'il était que les étudiants rouges, que les étudiants bolchévique était en but à l'hostilité locale des autorités de Dessau. En fait, les choses sont plus complexes et on s'aperçoit maintenant que les conflits avec certains des Meisters, et notamment avec Paul Klee, ont joué un rôle déterminant dans son éviction. Meyer, du coup, part en Union soviétique avec certains de ses étudiants, par exemple ici Tolziner et Tibor Weiner, avec une douzaine d'étudiants. Il crée une brigade du Bauhaus qui va travailler en Union soviétique pendant 3 ou 4 ans et dont les membres se disperseront après, certains finissant au goulag, comme Tolziner, et d'autres réussissant à poursuivre leur activité ailleurs, comme Weiner qui se retrouvera au Chili. Alors Miss arrive et transforme le cursus de l'école. Lui aussi, Miss est engagé dans la gestion au jour le jour. Il confirme le rôle de Hilbersheimer. Il augmente son poids pédagogique. Il augmente aussi la présence du photographe Walter Peterhans, qui avait recruté Meyer. Il confie l'atelier de tissage à Lily Reich, à qui il abandonne une grande partie de la gestion de l'école. On voit ici les Miss Hilbersheimer à Dessau, ici Lily Reich et les étudiants. Le plan d'études devient un plan d'études tout à fait différent, jusque dans sa présentation graphique, qui n'est pas anecdotique. On voit qu'il s'agit d'un plan d'une vision très rationnelle, étape après étape, dans laquelle on conserve la dimension des ateliers, la Werklehre, mais on introduit aussi la psychologie, la Normenlehre, la connaissance des normes, et au travers des disciplines, on aboutit à des profils professionnels qui sont extrêmement précis, bien plus qu'avant. Le premier contact de Miss avec les élèves se retrouve est un contact assez désastreux. Miss utilise la police contre les élèves les plus radicaux. Il en exclut une vingtaine afin d'obtenir un champ libre pour son programme, mais au fond son programme est très proche de celui de Meyer, qu'il prolonge. C'est le moment où il est possible de dire que le Bauhaus devient une école professionnelle, bien qu'au total, le nombre d'architectes qui a été formé ne dépasse guère 120 ou 150 personnes. Miss a l'occasion de réaliser un très modeste édifice à Dessau, c'est cette petite buvette surnommée le trou dans le mur, qui est installé dans l'espace public à proximité du Bauhaus. Pour le reste, l'Allemagne est affectée par la crise, par la crise de 1929, et donc la production architecturale y est réduite à fort peu de choses. Que dessinent les élèves du Bauhaus sous la direction de Meyer? Alors, je voudrais signaler plusieurs orientations sous la direction de Miss van der Rohe, pardon, et de son équipe, Hilbersheimer, notamment. La première caractéristique, c'est ce que j'appellerais une urbanisation du discours du Bauhaus, c'est-à-dire l'introduction de préoccupations en matière de forme urbaine, en matière d'économie urbaine. On le voit ici avec cette analyse de la ville de Dessau, de Wils, de 1932. On le voit aussi avec ces projets, ce projet de Hesse et Selman Agic, pour une Siedlung à Dessau, dont on peut noter l'implacable plan qui est dans la logique de ceux de Meyer ou des plans que Ernst Mayr développe à ce moment-là en Union soviétique, une image radicale de la ville fonctionnelle. Autre projet à dimension urbaine pour le séminaire d'Hilbersheimer, ce sont ses études de texture, notamment le travail sur les textures mixtes qui intéresse beaucoup Hilbersheimer, l'association dans ses propres projets, l'association de tours d'immeubles verticaux et d'immeubles en rangée. Nous verrons avec l'ensemble de Lafayette Park, construit à la fin des années 50 à Detroit, que cette idée sera poursuivie des décennies plus tard par Hilbersheimer et Miss aux États-Unis. À droite, l'idée de maisons en rangée extensibles. Les maisons extensibles, c'est un projet très, très important dans cette République de Weimar finissante. C'est l'idée que les ressources pour la construction sont limitées et que les quartiers doivent être constitués de noyaux de maisons capables de se développer, capables de croître quand l'économie repartira. Donc c'est un thème que pratique notamment auquel Otto Wagner consacre un projet très intéressant. Ici, cette idée est présente dans l'enseignement du Bauhaus. Aussi, dans l'enseignement du Bauhaus, des recherches sur les types, sur les morphologies urbaines, dans la logique des politiques menées par exemple à Francfort. Donc voilà un Bauhaus qui devient plus urbaniste, je dirais, qu'avant. Les travaux des projets réalistes sur des programmes concrets sont aussi proposés pour les diplômes. Ici, à gauche, un diplôme avec cette forme parabolique pour un aérodrome qui annonce la forme du grand aérodrome de Tempelhof à Berlin, dont je parlerai dans un moment. À droite, un projet de rénovation de magasins, de reconstruction de magasins, avant-après, le contraste est frappant. Évidemment, on peut lire ici l'écho des projets de Mies van der Rohe lui-même pour les magasins, les magasins de Stuttgart ou les magasins Adam à Berlin. Une caractéristique très importante de l'enseignement missien, c'est l'attention aux détails. Et cette attention aux détails, au dessin des menuiseries, des fenêtres, au dessin des maçonneries en briques, brique après brique, cette attention, elle se perpétuera dans l'enseignement qu'il donnera aux États-Unis. Donc, c'est un enseignement du détail constructif, du réalisme constructif, qui n'était pas du tout à l'ordre du jour pour Gropius et Meyer. C'est aussi un enseignement de la couleur, comme on le voit avec ce projet, donc dans lequel les projets de Meyer étaient assez obstinément noir et blanc. Ces projets sont des projets en couleur. Le lien avec les peintres de l'équipe est assez étroit. Assez rapidement, on voit aussi les élèves du Bauhaus travailler sur des types de bâtiments nouveaux qui correspondent à ceux que Mies, comme on va le voir, explore lui-même dans ses années. Mies se centre sur l'étude de maisons à cour, de maisons à patio, propose à ses étudiants de travailler sur le même thème. Ici, Pâle, qui travaille sur une maison à cour dans laquelle il déploie les mobiliers de son maître. Et cette maison à cour, il la détaille et, introduisant ces murs de couleurs, ces murs avec des textures différentes, qui sont un des éléments déterminants du langage de Mies. Autre expression de l'application du langage, oui, d'autres maisons à cour, maisons à un étage en bas et non pas un visage, des maisons à cour par d'autres élèves autour de 1932, des maisons extrêmement simples, quasi élémentaires, qui tranchent avec le luxe des programmes sur lesquels Mies avait travaillé. Et ici, on voit par exemple dans ce projet de Trudel les petites croix qui indiquent la trace au sol des poteaux métalliques semblables à ceux de la maison Tugendhat. Donc Mies fait constamment travailler ses élèves dans une sorte de rumination sur ses propres idées. C'est ce que l'on voit aussi dans le travail de cet élève américain qui a laissé des souvenirs tout à fait utiles pour comprendre quel était le sens de la pédagogie de Mies, Howard Dierstein, qui a gardé, par exemple, ce que l'on voit en bas, les dessins, les corrections de Mies sur ses projets. Le leitmotiv de Mies étant, selon Dierstein, recommencer. Mies faisait refaire des dizaines de fois les projets par les élèves jusqu'à ce qu'ils les trouvent satisfaisants. Le Bauhaus devient une école, donc une école dans laquelle la mise au point de détails des projets devient importante. Mies enseigne aussi, transmet un goût qui est un goût assez radical, assez déterminé. Pour lui seul, toujours selon Dierstein, seuls les doigts d'une seule main permettaient de compter les architectes recevables dans l'Allemagne d'alors. C'est une école assez professionnelle, dans le même temps assez sectaire, qui se met en place. Mais la situation devient difficile pour Mies entre 31 et 32. Les nazis déploient leur influence dans toute l'Allemagne, et en août 32, l'école est expulsée de la ville de Dessau à la suite d'une expertise qui est confiée à Paul Schulze-Naumburg, dont j'ai parlé, l'auteur des Kulturarbeiten, est en fait un des premiers adhérents du parti nazi et un des responsables, un des inspirateurs de la politique architecturale et artistique du nazisme. Et donc, Schulze-Naumbourg, clairement, conclut, en dépit du plaidoyer vibrant de Mies, que le Barents n'enseigne pas l'art de l'architecture et qu'il ne mérite pas les moyens publics. Ce que critique, vous voyez ici, dans ce très beau photomontage, cet étudiant japonais du Bauhaus. Il y en a plusieurs. Alors, la presse rend compte de la mort, du décès du Bauhaus, publie cette oraison funèbre du Bauhaus de Dessau, et Mies parvient à prendre le contrôle de l'institution. L'installe dans une ancienne fabrique de matériel électrique sous la forme d'une institution privée. Ce n'est plus le Bauhaus d'État, le Bauhaus est une école dont Mies est le propriétaire. Il avance l'argent nécessaire à l'aménagement du bâtiment, je ne sais où il le trouve, en considérant qu'il est, je cite Mies, moins prétentieux et beaucoup mieux que celui de Gropius. Il se débarrasse au passage de son opposition de gauche parmi les étudiants et il rachète les brevets que le Bauhaus avait déposés et qui étaient propriété de la ville de Dessau, ce qui permet à l'école de fonctionner avec les droits d'auteur, par exemple ceux que produisent les papiers peints sur les motifs du Bauhaus, et l'école fonctionne donc à partir de 1932. Un article de presse à droite, l'école d'art dans une usine, et à gauche, nous voyons Mies en train de montrer comment aux élèves comment poser une brique sur l'autre. À l'approche, avec la prise du pouvoir par les nazis en 1933, l'étau se resserre. Sous prétexte d'une plainte émanant des autorités de Dessau, une perquisition est organisée au Bauhaus de Berlin en avril 1933. Du matériel communiste est saisi, vous voyez le sous-titre. Et dès lors, Mies essaye pendant quelques semaines de négocier la poursuite des activités de l'école. Il se rend contre l'avis de Lili Reich et Hilbersheimer chez le dirigeant nazi Alfred Rosenberg, dont le journal le Völkische Beobachter avait soutenu l'action de Schulze-Naumbourg. Mais Rosenberg, qui est architecte de formation, est lui-même plutôt de tendance moderne, en tout cas superficiellement. Les étudiants de droite du Bauhaus le soutiennent auprès de la Gestapo de Berlin, mais celle-ci la met Mies en garde contre la présence de Vassili Kandinsky, qui est juif, dans le corps enseignant, et d'Hilbersheimer dans le corps enseignant, et subordonne l'autorisation de réouverture du Bauhaus à l'expulsion de ses enseignants et de quelques autres marqués politiquement au sceau de la radicalité. Au total, Mies va décider le 20 juillet, après avoir reçu ses conditions passant par l'exclusion d'une partie du corps enseignant, Mies consulte les enseignants qui déclinent cette offre et Mies se résout, dit-il, à fermer lui-même le Bauhaus afin de ne pas laisser ce soin aux nazis. Donc voici le dernier épisode qui voit Mies fermer le Bauhaus. Ceci n'empêchera pas son espèce de combat perdu d'avance, le fera, et le fait qu'il est allé voir les autorités nazies conduiront certains héritiers du Bauhaus, la seconde épouse de Moheunod en particulier, Sibylle, à le considérer comme un traître. Gropius aussi lui reprochera la femme de Gropius, Ise, lui reprochera son soutien supposé au régime en oubliant au passage les efforts que Gropius avait fait lui-même, déployé lui-même pour rester en Allemagne. Donc Mies perd ses soutiens en Allemagne, sa position institutionnelle. Dans le même temps, ceux qu'il a aux États-Unis sont encore extrêmement fragiles. C'est essentiellement le jeune Philip Johnson, formé à l'université de Harvard, qui a visité les bâtiments de Mies en Allemagne et ailleurs, notamment la maison Tugendhat. La commande que Philip Johnson fait à Mies de son appartement à New York est pratiquement la seule commande, à part là-bas au Haustellum, que Miss reçoit en 1930. On voit à droite donc l'aménagement de cet appartement avec les meubles, avec les chauffeuses de Barcelone et la chaire de Brno. Et ici, le plan de ce petit appartement qui est en fait complètement préfabriqué en Allemagne et transporté par bateau aux États-Unis. Miss, en effet, dans cette période, perd les concours. Il perd notamment un concours très important symboliquement à Berlin, qui est le concours pour le réaménagement de la Neue Wache, du nouveau corps de garde, qui se trouve ici, sur Unter den Linden, à côté de l'arsenal. On voit au fond le dôme du palais impérial. Eh bien, ce concours organisé en 1930-31 porte sur la transformation de ce corps de garde en monument aux morts de la guerre de 14. Beaucoup d'architectes importants y participent. Peter Behrens en haut, Hans Pölzig, avec ce fort langage d'éléments verticaux. Ici, Heinrich Tessenow qui remporte le concours avec un projet très simple. Celui de Miss reprend des éléments du langage de ses projets domestiques, le mur de fond et les éléments de stature. Dans sa forme finale, il s'agit essentiellement d'un grand volume, comme vous le voyez ici, dont les murs sont tapissés de plaques rectangulaires de marbre de Tinos. Au milieu de la salle, une épaisse dalle noire qui propose une approche complètement abstraite à la remémoration. Donc une présence très lithique, je dirais, dans ce bâtiment. La mise au pas des nazis après 1933, la Gleichschaltung, va affecter les institutions comme l'Académie des Beaux-Arts, au sein de laquelle Miss avait été admis en 1931. L'écrivain Heinrich Mann, le peintre Käthe Kollwitz sont poussés à la démission à peine 15 jours après les élections du début 1933. Le romancier Alfred Döblin, l'urbaniste Martin Wagner protestent et démissionnent, mais Miss reste. Miss reste encore. Il répond à un questionnaire sur son aryanité et il demeure pendant un moment encore en cours, à tel point que pour Philip Johnson, donc qui écrit en 1933 sur l'architecture dans le Troisième Reich, seulement quelques mois après la prise du pouvoir par Hitler, pour Philip Johnson, il est alors le seul architecte que les jeunes peuvent défendre. Mais ceci n'a pas d'impact pratique, notamment sur le concours de la Reichsbank, qui est le grand espoir de Mies dans ces années-là. Le siège de la Reichsbank, au centre de Berlin, concours auquel participe à nouveau Pölzig, auquel participe encore Gropius, après la prise du pouvoir par les nazis, avec un bâtiment très différent de celui très compact, très austère de Pölzig à sa manière. Celui de Gropius est un bâtiment qui articule les fonctions de ce siège social en différents corps de bâtiment. Ici, nous voyons le projet de Miss, qui est un projet très monumental, avec cette longue façade incurvée et trois corps de bâtiment qui avancent vers la Spree ici. On peut voir, voici le détail, l'élaboration progressive de ce plan, donc la Spree, ce bâtiment, la forme de principe du bâtiment, puis son ajustement au terrain avec sa dilatation. Ici, une des sources de sa réflexion, l'idée des volumes presque aveugles, ou en tout cas très lisses sur le canal, c'est sans doute un écho du Neuer Parkhof de Schinkel, démoli depuis. Voici donc les perspectives qui nous montrent la longue façade incurvée du bâtiment, une façade en verre assez sombre, et les trois pignons qui se seraient dressés sur le canal. Ce projet, la courbe tendue est intéressante, elle fait penser aux courbes des grands magasins de Mendelssohn, par exemple, à la fin des années 20. Mais le concours traîne en longueur et il est finalement annulé lorsque Hitler nomme un de ses fidèles, Kalmar Schacht, à la tête de la banque. Voici une autre image de ce projet ici, la grande façade avec son hall sur l'intérieur et donc le plan et son angulation. Un petit projet que Miss parvient à mettre en œuvre, c'est une contribution à l'exposition Deutsches Volk, Deutsche Arbeit, peuple allemand, travail allemand, qui est organisée par un des soutiens des architectes modernes auprès de Goebbels, du nom de Hans Weidemann. Cette exposition ouvre en avril 34. Miss travaille en son sein à concevoir un des éléments qui est le stand la section des industries minières. On voit ici dans le dessin de Rugenberg qui nous montre la halle des expositions dans laquelle Miss avait réalisé le bâtiment de l'exposition La maison du célibataire en 1931, occupée par ces éléments. Les modernes radicaux participent encore à cette opération. C'est le cas de Walter Gropius avec ce très très belle installation pour la section des industries métallurgiques. Quant à Miss, il construit très simplement, de façon très, très, je dirais, rigoureuse, voire rigide, deux murs, un mur de sel et un mur de charbon pour évoquer les mines dans lesquelles ces deux matériaux sont extraits. À en croire Albert Speer, qui en parle dans ses mémoires, ou plutôt dans une interview donnée à Helen Hochmann, qui a étudié il y a longtemps les rapports de Miss avec le nazisme, Hitler n'avait pas aimé. Miss n'est pas le seul dans son environnement immédiat à participer à l'exposition. Il travaille aussi sur le stand des industries verrières, très belle installation de cylindres de verre qui ressemble à une sorte d'équivalent en verre des ondulations du café, du velours et de la soie que l'on a vu auparavant. Lili Reich travaille aussi. Elle élabore des vitrines très élégantes pour la section de céramique. Alors, Miss a un dernier espoir. Après avoir perdu le concours de la Reichsbank, il a un dernier espoir pour finalement réussir à obtenir des commandes d'État, puisque lui qui affirme être apolitique, bien qu'il soit évidemment très marqué par le monument à Karl Marx et Rosa Luxemburg, ce monument à Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg, ce monument qui est détruit par les nazis en 1935. Donc, Miss a un lourd handicap. Il n'empêche qu'il est pendant longtemps en course pour l'élaboration du pavillon d'Allemagne à l'exposition universelle de Bruxelles en 1935. Ce pavillon est un pavillon beaucoup plus grand que celui, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'un pavillon de réception comme celui de Barcelone. Cette fois-ci, Miss a l'occasion d'étendre à l'ensemble de la représentation allemande les principes de Barcelone. Et l'on voit ici les éléments de langage. Ce pavillon est censé célébrer, d'après ce que Miss en dit, l'essence du travail allemand. Et donc, sur le plan carré de cet édifice construit à l'intérieur d'une enceinte close de murs que prolongent des espaces ouverts, comme à Barcelone, on le voit déployer le langage du pavillon 1929, les murs pleins et la trame des poteaux. Dans le même temps, ce qui est nouveau, c'est qu'il introduit une certaine symétrie. On voit ici la coupe du bâtiment et on retrouve ces éléments. On voit ici que l'espace central est un espace symétrique dans lequel, encore une fois tapissé de pierre comme la Neue Wache, comme le corps de garde, avec une perspective tout à fait différente. Donc, en tout cas, c'est un bâtiment qui utilise le langage de Barcelone. On retrouve les colonnes de manière beaucoup plus solennelle. Voici l'élévation de ce bâtiment avec un volatile qui ressemble fort à un aigle nazi un peu grossièrement esquissé. Devant la tension internationale, l'Allemagne renonce à sa participation. Mais il est clair que Miss n'était pas dans la course. Rugenberg racontera avoir vu ses dessins jetés au sol dans le bureau de Hitler au moment où il est allé les, les récupérer. Donc, ce que l'on voit en tout cas dans ce projet, c'est la contradiction entre les certaines contradictions entre les formes fluides du pavillon de Barcelone et puis une certaine rigidité représentative. Le projet est en fait confié à Ludwig Ruf, mais est abandonné. Alors, quels sont les autres projets de mise dans cette phase? J'en évoquerai quelques-uns pour terminer. Les projets de mise au début des années 30 sont systématiquement abandonnés en cours de route, mais ces projets le voient élaborer finalement une nouvelle problématique, notamment dans le rapport au paysage, où l'on voit les organisations tentaculaires que l'on a observées depuis la maison de campagne en briques, ces organisations être prolongées, continuées, notamment pour ce programme de club de golf à Krefeld, financé par les Lange, ou pour cette maison pour Herbert Gericke, directeur de l'Académie d'Allemagne à Rome, une maison censée être construite à Wannsee. Ce qui est nouveau, c'est que les ailes que ces bâtiments projettent sur les terrains deviennent beaucoup plus transparentes, elles deviennent presque diaphanes, ce sont des abris légers à l'image du pavillon de Barcelone ou à l'image d'une maison Tugendhat qui aurait perdu le mur du fond et qui serait devenue complètement ouverte. Donc c'est une architecture beaucoup plus légère, mais dont les éléments, dont le lexique, la syntaxe est celle parfois des projets des années 20, le lexique est celui de Barcelone et de Bernan. Un groupe de projets particuliers est à remarquer dans ceux que Mies étudie pour son compte et dans ceux qu'il fait étudier par ses élèves du Bauhaus entre 1931-1932, c'est l'ensemble des maisons à cour des maisons dont l'horizon est fermé par un mur d'enceinte et à l'intérieur desquelles se déploie, se formule à chaque fois de manière originale le rapport entre les espaces couverts et le patio. Un espace dans lequel se formulent aussi les éléments du lexique que sont le mur plein, avec une texture ici donnée comme étant en bois, mais qui peut être une texture minérale, et les poteaux métalliques. Donc c'est le lexique utilisé à l'extérieur qui est ici en quelque sorte intériorisé, comme c'est peut-être une considération un peu superficielle ou rapide, comme une sorte de métaphore de l'enfermement professionnel croissant de Mies. Donc un repli sur des bâtiments, introvertis, mais qui englobent quand même des espaces ouverts bien contrôlés. Ici, une maison à cour avec original à cause du garage, de ce garage qui est au milieu de la maison, mais aussi original à propos des formes qu'elle utilise. Mies se laisse aller, dans certains cas, à utiliser des formes curvilignes qu'on ne lui connaissait guère. Voilà un groupe très intéressant de trois maisons à cour. On voit qu'elles sont tout à fait identiques, avec la cheminée posée vers l'extérieur, calée à l'extérieur, la grille de poteaux et encore une fois les murs d'adossement. On voit comment Mies, dans ses différents projets, utilise de plus en plus la référence à des fragments de tableaux. On verra cette démarche prolongée aux États-Unis pour, non pas qu'il indique ainsi la volonté de réaliser ce genre d'image, mais c'est une sorte de codification qui est assez efficace dans ses dessins. À un moment d'ailleurs où il s'intéresse beaucoup aux grandes images murales projetées. Il réalise une seule de ces constructions, une construction extrêmement modeste, qui n'est pas une maison à cour complète, puisque la cour reste ouverte. Elle est édifiée, et c'est le seul bâtiment qu'il réalise à Berlin après la Bauausstellung, entre 1931 et 1968, donc pour très longtemps. Ce bâtiment est une petite maison à rez-de-chaussée située dans l'est de Berlin, à Hohenschönhausen, au bord d'un lac. La voici à l'époque et une photo que j'en fis juste après la démolition du mur, alors que ce quartier, qui était un quartier dans lequel la Stasi était très implantée, était jusque-là fermé au public. Donc voilà cette maison à peine redécouverte. Vous voyez qu'elle a un plan L, enfin compromis entre un L et un U. On revoit ce plan ici avec la cour, le bureau. Vous voyez ici la photographie du bureau avec cette table et l'habitation de l'autre côté. Cet imprimeur, Lemke, est un collectionneur d'art, mais il est en même temps très près de ses sous et il demande à Miss une maison petite et modeste. Donc, on voit Miss ici travailler, abandonner l'ossature d'acier, abandonner le marbre, répondre en quelque sorte aux critiques qui avaient visé la villa Tugendhat et travailler avec des briques, avec ce que l'on appelle les briques du Reichsformat, c'est-à-dire les briques standards utilisées dans toute l'Allemagne. Donc, les maisons à patio qui offrent des horizons théoriquement bien plus extraordinaires, bien plus généreux finalement, n'aboutissent qu'à cette modeste construction. Alors, deux autres bâtiments sur lesquels, deux autres projets sur lesquels Mies travaille dans cette période, tous les deux abandonnés, mais qui jalonnent sa réflexion sur l'espace de l'habitation. Le premier projet, c'est un projet pour Margaret Hube, qui est membre du Werkbund, qui est une amie d'Emil Nolde, pour lequel, comme vous vous en souvenez, Mies a travaillé en 1930. Elle désire se faire construire une maison sur ce terrain de Magdebourg, au bord de l'Elbe, et Mies reprend le thème des maisons à patio après des hypothèses très ouvertes. Il veut éviter une vue ennuyeuse, voire gênante, vers le sud, c'est-à-dire vers le reste du quartier, en créant un mur d'enceinte à l'intérieur duquel il déploie la maison. Donc, vous voyez ici les études de plan, le mur d'enceinte qui la cache d'un côté, qui la protège, et l'ouverture. Vous voyez aussi la trame de poteaux, très bien sur ce plan, la trame des poteaux d'acier, et on les voit être mises en place dans ce système, avec toujours la même idée, le même travail sur les intérieurs, le calage des parois opaques et le déploiement des minces colonnes de métal. Voilà une image en plan de cette maison, un plan en T à l'intérieur d'un rectangle. Vous voyez aussi très clairement le déploiement des pièces des sanitaires, de la cuisine, et ici la paroi sur laquelle l'adossement est obligatoire et qui migre ici depuis notamment le projet Tugendhat. Ici, une maquette de l'époque qui nous montre cette situation, donc le T au milieu du rectangle et l'ouverture vers le fleuve et la fermeture et que l'on voit très bien dans ce dessin du côté de la ville. Une maquette de cette maison a été faite au moment de l'exposition de 2001 sur Mies à Berlin, mais le toit, ce toit plat qui a un sens très fort, en cache complètement la disposition intérieure. Un autre projet étudié dans la même période et là aussi resté sur le papier développe le même thème, c'est-à-dire l'idée d'une habitation assez luxueuse contenue à l'intérieur d'un rectangle. C'est le projet pour Ulrich Lange, qui est le fils de Hermann Lange, l'industriel de Krefeld. Cette maison est aussi conçue sur un seul niveau. Elle est initialement découpée en deux ailes très, très distinctes, comme vous le voyez ici. Elle est conçue, comme vous la voyez là, avec une tectonique de briques, sans doute de la famille de celle de la maison Lemke, mais probablement beaucoup plus riche. Et voilà la solution finale dans laquelle cette maison devient un T, comme la maison Hube, un T déployé à l'intérieur du rectangle, mais avec quelque chose d'assez original. On a déjà vu le travail initial de Miss sur, avec la maison à un garage. Ici, la paroi de rigueur, si je puis dire, devient une forme sculpturale. Et on voit aussi que Miss s'attache beaucoup à dessiner sur ce document d'étude, à dessiner des figures sculpturales. On pense évidemment, on peut penser à Rodin, on peut penser à la statue de Kolb dans le pavillon de Barcelone. Donc, il se pense toujours à ponctuer ces espaces avec par la présence de sculptures. Ici, deux autres projets dont le terrain reste mystérieux, dont on ne connaît pas précisément la situation. On peut faire l'hypothèse que ce projet de maison dans les montagnes, et non dans les montages, conçu en 1934, est un projet pensé pour le Tyrol ou pour la Suisse. Miss, en effet, avait voyagé, avait été dans les Alpes avec les étudiants du Bauhaus, ou plutôt les anciens étudiants de l'ancien Bauhaus, pendant l'été de 1933, et on peut imaginer qu'il confronte ces organisations horizontales ouvertes que l'on a vues avec ces horizons alpins. Ici, une autre idée, qui est une idée qui sera reprise après la guerre, par exemple dans le premier projet de la maison de Charles Eames, l'idée d'une maison de verre qui exploite la pente, qui est planté sur la pente, non plus collé à la pente comme c'était le cas pour la maison Tugendhat, mais une maison qui se détache de la pente et qui flotte au-dessus d'elle. Mais on n'a pas beaucoup plus d'éléments que ce croquis pour comprendre ce projet. Le dernier projet que Miss étudie avant de quitter l'Allemagne, alors qu'il a abandonné tout espoir d'avoir des commandes publiques, c'est un projet pour Hermann Lange à nouveau. Hermann Lange, qui est en bon terme avec le régime nazi, lui confie l'étude d'un bâtiment administratif, d'un bâtiment de bureau pour son entreprise. Et l'on voit Miss reprendre le dispositif de la Reichsbank, ce plan trapézoïdal avec un corps de bâtiment incurvé, réduit évidemment fortement, homothétiquement, moins austère, plus dans un langage qui est proche de celui de l'usine qu'il vient d'achever, de l'usine de Krefeld dont j'ai déjà parlé. Voilà le plan à droite et l'élévation de ce bâtiment qui est sans doute de la part d'Hermann Lange, qui n'avait pas l'air extraordinairement convaincu de réaliser ce projet, une manière de soutenir économiquement Miss. En effet, celui-ci ne trouve plus de projet, vraiment. Le dernier projet, outre cet immeuble de bureau qu'il étudie, est l'aménagement d'un appartement situé à Rathenow, qui est à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Berlin, pour sa fille Marianne et son mari Wolfgang Lohan. Donc c'est un projet pour la famille, ce n'est pas avec ce genre de projet que les architectes peuvent subsister. Donc dans le contexte qui est celui du Reich de la fin des années 30, Miss aurait pu avoir sa place. En effet, bien que le régime condamne officiellement l'art dégénéré, avec notamment au moment de l'exposition de Munich, en utilisant beaucoup d'idées sur l'assimilation de l'art moderne à la décadence et à la maladie mentale, beaucoup d'idées émises par Schulze Naumburg, qui avait été l'adversaire de Miss à Dessau, ainsi que je l'ai dit, en dépit de tout cela, eh bien, la production architecturale reste en partie une production moderne. Hilbosheimer peut remettre ce projet tout à fait radical au concours pour la cité universitaire de Berlin en 1938. Herbert Bayer, par exemple, ancien graphiste formé au Bauhaus et qui émigrera plus tard aux États-Unis, peut encore réaliser ce genre d'affiches au milieu des années 30. L'architecte Ernst Zagebiel, qui était proche de Mendelssohn, réalise cet extraordinaire projet en plein milieu de Berlin, l'aérodrome de Tempelhof, qui n'est en rien, à part les salons de réception, dans le langage institutionnel, monumental, auquel on a l'habitude d'assimiler le Troisième Reich. Paul Bonatz, qui s'était, on s'en souvient, opposé à Mies à Stuttgart, réalise les ponts et les ponts suspendus, les viaducs du réseau autoroutier dans l'ouest de l'Allemagne, avec l'aide de l'ingénieur Fritz Leonhardt, formé aux États-Unis. Donc il y a le Fordisme s'empare de l'économie allemande, avec notamment l'idée de la voiture pour tous, dont le modèle est un modèle fordien, dans le même temps que les installations scientifiques et notamment celles de l'aéronautique font appel à des formes modernes. Ici, cette étonnante soufflerie de l'Institut d'Adlershof à côté de Berlin et cette usine de Herbert Rimpel, l'architecte, qui déploie finalement des éléments architecturaux très proches de ceux de Mies dans l'usine Heinkel et dans beaucoup d'autres usines qu'il réalisera. Donc il y a dans le Reich nazi de la fin des années 30, il y a une production architecturale moderne, je dirais même fonctionnaliste, notamment dans le domaine de la science et de l'industrie, mais Mies reste malgré tout entaché de ses aventures des années 20 et 30. Le Bauhaus est systématiquement dénoncé, et lui, qui ne s'était jamais défini comme un architecte du Bauhaus, va être touché par cet opprobre, dans le même temps qu'il continue à porter évidemment la marque infamante du monument à Liebknecht et Luxembourg. Donc, dans ces conditions, sa survie professionnelle est en cause. Il se voit également demander de démissionner des institutions officielles en 1937 et en tire la conclusion qu'il vaut mieux pour lui mettre un océan entre son activité et l'Allemagne nazie, ce qu'il fera en 1938 de manière définitive. Merci.